La traversée de l'Atlantique par Charles Lindbergh en 1927 est un des exploits les plus fracassants de l'histoire de l'aéronautique. Il faut vous dire que, dans les années 20, ça fait peu de temps qu'on parvient à faire voler des engins plus lourds que l'air. Bien sûr, l'aviation a progressé pendant la Grande Guerre, mais en dehors du domaine militaire, elle en est encore à ses balbutiements. Aussi, les jeunes gens de l'époque n'ont qu'un rêve, s'envoler, décoller du sol et suivre les oiseaux. Ce rêve, le jeune Américain Charles Lindbergh le partage. Il a fait son baptême de l'air en 1922 sur une espèce de coucou qui sent le vernis et l'huile de moteur, et par la suite, il s'est arrangé pour rééditer l'expérience le plus souvent possible. Charles a trouvé un poste d'assistant bénévole auprès d'un pilote de parade, une sorte d'acrobate volant, comme il y en a tellement à l'époque, et qui sillonne les États-Unis sur son biplan, c'est-à-dire un avion aux ailes superposées. Charles monte avec lui comme passager, et puis, une fois qu'ils sont dans les airs, eh bien, il sort de son habitacle et il se met à marcher sur les ailes, histoire d'impressionner la foule. Il fait ça sans harnais de sécurité, sans rien. C'est le risque maximum. Première grande leçon, celle de la précision. Un pas de côté, ce serait l'accident. L'autre passion de Charles Lindbergh, c'est la mécanique. Quand il était adolescent, il passait déjà sa vie à mettre sa moto en pièces détachées. Seulement, une moto, c'est bien, un avion, c'est mieux. Alors, il s'est arrangé pour réunir des fonds. Et il s'est acheté une espèce de coucou d'occasion qu'il a baptisé Jenny et qui lui a permis d'apprendre à désosser un moteur et puis bien sûr aussi à piloter tout seul. Le rêve est ainsi devenu réalité. Le hic, c'est qu'on ne vit pas facilement de ses rêves. Le jeune homme, poussé par ses parents, va devoir s'engager dans l'US Air Force, au départ juste pour un an. D'emblée, Charles se révèle excellent pilote. Il sort premier à l'examen de fin d'année et se trouve admis aussitôt dans l'aéropostale sur la ligne Saint-Louis-Chicago. Ça y est, voilà notre jeune pilote à la grande école de la poste aérienne. Il doit voler de nuit comme de jour, même par mauvais temps. Pas question de remettre au lendemain le transport d'un courrier coûteux pour les clients. C'est dans ce nouveau métier que Lindbergh va prendre conscience de l'importance pour les avions du poids de ce qu'ils emportent. Ça, c'est la deuxième grande leçon. Un kilo de trop, et ce serait le crash. C'est plus fort que lui, Charles continue de rêver. Il rêve à présent de grands exploits. Il se dit que s'il pouvait se faire prêter un avion de qualité, il leur montrerait à tous ce dont il est capable. En vérité, Lindbergh a une idée en tête. Il aimerait relever le défi lancé par un hôtelier fortuné de la 5e avenue, relié New York à Paris par avion. D'une seule traite, je précise, autant dire un pari fou et qui a déjà tenté en vain pas mal de têtes brûlées, à commencer par le célèbre Fonck, un as français de la Grande Guerre. Fonck a tenté sa chance en septembre 26, sans succès, l'accident de son avion a fait 2 morts, le mécanicien et le radio. Lindbergh hausse les épaules, il soupire. Pour lui, ça ne fait aucun doute. Fonck a commis l'erreur de charger son appareil, de trop le charger. Pourquoi 4 hommes? Pourquoi tant de vivres? Pourquoi tous ces instruments? Lui, le jeune homme de l'aéropostale, il sait qu'il pourrait faire beaucoup mieux en prenant le pari inverse, se contenter d'un monomoteur et délester l'avion de tout ce qui n'est pas strictement nécessaire. Vous avez compris maintenant, quand Lindbergh veut quelque chose, il met tout en œuvre pour l'obtenir. Et c'est comme ça qu'il va s'appliquer à convaincre un certain nombre d'investisseurs. Alors il réunit les fonds nécessaires et puis il se fait construire un petit avion à ses mesures et selon ses conceptions. Le moindre détail a été pensé. Toutes les charges superflues seront supprimées au profit du carburant. Pas d'équipage, évidemment, pas non plus de radio, pas d'instrument, même pas de vue frontale, puisque le tableau de bord sera remplacé par un gros réservoir de kérosène. L'appareil, baptisé le Spirit of Saint Louis pour rendre hommage aux gens de Saint Louis qui ont financé le projet, sort d'atelier à la mi-avril. Dès le 28, il effectue son premier vol, direction Saint Louis, justement, puis New York. L'essai est concluant. À l'arrivée, les journalistes sont au rendez-vous pour accueillir cet illustre inconnu de 25 ans qui prétend réussir là où tant d'autres ont échoué, enfin, traverser l'Atlantique en avion, car je ne vous l'ai pas encore dit. Mais la tentative de Funk n'a pas été la seule à échouer. Un autre pilote, à bord d'un trimoteur cette fois, s'est écrasé aux essais. Un troisième s'est tué en vol avec son copilote. Quant aux Français Nungesser et Colli, qui prétendaient au même exploit, mais dans l'autre sens, on a tout simplement perdu leurs traces quelque part dans l'Atlantique. Rien de tout cela n'impressionne Charles. Lui va toujours au bout de ses rêves. Ceux qui le connaissent bien le savent, à commencer par sa propre mère. Un jour, elle lui rend visite à son terrain d'aviation près de New York. La mère et le fils s'enferment dans un hangar pour essayer d'échapper à l'indiscrétion des journalistes. Leur tête-à-tête va durer plusieurs heures. Qu'est-ce qu'ils se sont dit pendant tout ce temps ? Personne ne le saura jamais, mais quand ils réapparaissent sous le crépitement des gros flashs de l'époque, c'est pour des adieux très sobres. Madame Lindbergh n'embrasse pas son fils, cela ne se fait pas dans la famille, simplement elle lui dit en effleurant son épaule de la main « Au revoir et bonne chance, Charles. Au revoir, maman. » Maintenant, la seule chose qui retienne encore Lindbergh à terre, c'est la météo. Or, le temps est détestable cette semaine-là sur l'État de New York. Impossible de relever un défi pareil dans de telles conditions. Le jeune aviateur ronge son frein. Il guette le ciel. Les jours passent. Le 19 mai, il finit par accepter un dîner avec la presse de New York. Mais alors qu'il partait pour ce dîner, on lui annonce que la météo change sur l'Atlantique, que le ciel est en train de se dégager. Allons bon, Charles fait demi-tour, il décollera demain matin. C'est comme ça, il a senti qu'il fallait y aller. Une voix secrète le lui a murmuré. Maintenant, la certitude monte en lui que tout va bien se passer. Remettre tout cela plus tard, ce serait une erreur. Il le sent, Lindbergh. Il ne saurait pas dire pourquoi ni comment, mais il le sent. Dernière nuit avant le décollage, Charles est nerveux. Il n'arrive pas à trouver le sommeil, et d'autant moins que son hôtel est envahi de reporters. Tous ces gens dans les couloirs font tellement de bruit qu'il n'y a pas moyen de fermer l'œil. À 2h45 du matin, le jeune aviateur en a assez de se retourner dans son lit. Excédé, il se redresse d'un bond, souffle un grand coup et prend la résolution de se lever. Évidemment, une nuit blanche à la veille d'une traversée qui doit durer 30 heures, au bas mot, ce n'est pas l'idéal. Seulement, quoi faire ? Lindbergh n'hésite pas un instant. Quoi faire ? Aller de l'avant. C'est ainsi qu'au hangar, dans les premières lueurs de l'aube, un mécanicien actionne bientôt l'hélice du Spirit of Saint-Louis. Mauvaise surprise, le moteur tourne mal. Quoi faire ? Aller de l'avant. Dehors, un petit vent bien dangereux vient de se lever. Exactement ce que tout pilote redoute au moment de décoller. Quoi faire ? Aller de l'avant. Le jeune pilote lève calmement la main droite pour faire ouvrir le hangar. L'avion avance lentement. Sitôt dehors, son train s'enlise dans une glaise que les pluies des jours passés ont rendue collante. Il faut 8 hommes arc-boutés sur les ailes pour faire avancer l'appareil. Là, ça se corse. Quoi faire ? Aller de l'avant. Aller de l'avant et mettre plein gaz. Charles Lindbergh fait ronfler le moteur. Son Spirit of Saint-Louis se traîne jusqu'à la piste. Il prend de la vitesse un peu. Il décolle 2 fois et retombe au sol. Puis, tout à fait en bout de piste, avec beaucoup de mal du fait de ses gros réservoirs, il finit par quitter le sol et par s'élever dans le ciel du matin. Il est 7h52 exactement. Un Américain de 25 ans est en train, sous nos yeux, de monter à l'assaut du plus grand défi de l'histoire de l'aviation civile. Pour l'instant, tout a l'air de bien se passer, sauf qu'aux abords de la Nouvelle-Écosse, le temps se gâte à nouveau. Des orages terribles zèbrent le ciel à quelques dizaines de kilomètres seulement. Pour n'importe quel pilote, il y aurait de quoi renoncer sans appel. Pas pour Charles Lindbergh. Grâce à tout son carburant en réserve, lui peut se permettre de faire un large détour sans conséquence pour la suite. Laissons la parole à Charles lui-même. « Voici ma dernière heure de contact avec l'Amérique, écrit-il. Quoi qu'il puisse arriver par la suite, elle sera pleine de vie. Je passe très bas au-dessus des montagnes, tout près du granit de leur sommet, près des corniches et des crevasses qu'aucun œil humain n'avait encore vues. Désormais, les explosions du moteur sont inséparables des battements de mon cœur. Je fais autant confiance à l'un qu'à l'autre. Tandis que le soleil, là-bas derrière, touche déjà l'horizon, le pilote se retourne une fois encore pour voir disparaître les côtes américaines dans le faux jour. Déjà il est ailleurs, il est tout à l'océan. C'est ici qu'il faut que je vous parle du secret de Charles Lindbergh. Voilà un homme qui, lorsqu'il pilote, se fond littéralement dans son appareil et dans le milieu environnant. Ainsi, au moment où il survole l'océan, il se montre sensible à la froideur des flots, à l'opacité de leur surface déjà presque noire dans le couchant, à l'orientation des crêtes de ces vagues qui le renseignent mieux que n'importe quel instrument sur les vents rasants. Il faut dire qu'il n'évolue jamais qu'à 700 mètres du niveau de la mer. Parvenu à la verticale de Terre-Neuve, le Spirit of Saint-Louis effectue deux passages en boucle au-dessus de la station d'observation. Comme ça, au moins, il n'y aura pas de litige. Du reste, on pourrait s'étonner de l'itinéraire choisi par Lindbergh, un itinéraire bien éloigné des routes maritimes. Là encore, Charles a refusé de se laisser influencer par les gens prudents. Il a tracé sur ses cartes le chemin le plus court. Celui-ci passe par des latitudes très élevées. Eh bien, soit, ce n'est pas un problème. Tout ce qu'il espère, Charles, c'est d'être capable, en dépit du caractère rudimentaire de ses équipements, de maintenir à peu près le cap sur l'Irlande. D'ailleurs, il a constaté que des vents puissants avaient tendance à le faire dévier un peu au sud, alors il a donné comme ça, à vue de nez, un léger correctif au nord. Son itinéraire le fait passer par des régions presque polaires. Un simple coup d'œil vers le bas permet de s'en rendre compte. De grosses pyramides d'un blanc très vif, presque fluorescent, se détachent sur l'océan tout noir. Ce sont des icebergs. Ils seront de plus en plus nombreux. L'air glacial est à la limite du supportable. Seulement, Charles ne veut pas fermer les vitres parce qu'il a peur de s'endormir. Bientôt, les icebergs ont tendance à se fondre dans un lit de brume qui lui-même s'épaissit et blanchit sous la lune. L'avion traverse des nuages toujours plus épais, chargés de gros cristaux gelés qui s'écrasent sur la carlingue en faisant un bruit mat. Autant l'admettre, notre jeune pilote n'emmène pas large. Il lui faut lutter contre la nuit, contre le vent, contre la brume, contre le givre qui recouvre l'appareil et lui fait perdre de l'altitude. Surtout, Charles doit lutter contre le sommeil. Il y a près de 40 heures qu'il n'a pas fermé l'œil. Alors, son organisme réclame son dû. Ses paupières ont tendance à se fermer d'elles-mêmes. L'aviateur doit les tenir ouvertes entre ses doigts à moitié gelés. Tout cela est très pénible et tout cela dure très longtemps. Surtout ne pas dormir. Charles Lindbergh se penche au dehors par le hublot de l'habitacle. Il respire à plein poumon, goulûment. L'oxygène le réveille. L'aviateur sent ses facultés lui revenir. Il est bientôt aussi réveillé que lorsqu'il est parti 19 heures plus tôt. Son compteur indique 2 895 km parcourus. Il en reste 2 895, autrement dit, il est à mi-chemin. Lui qui attendait cela depuis si longtemps, il s'était promis pour fêter l'événement de manger une tartine et de boire un verre d'eau. Seulement, il a déjà englouti tous ses sandwichs. Quant au verre d'eau, il s'en passera puisqu'il n'a même pas soif. Quand le soleil revient dans le ciel, Charles sourit nerveusement. Il est au-delà de la fatigue. Dans cet état de survie que connaissent les rares personnes qui sont allées loin au-delà d'elles-mêmes. Tout est comme dans un rêve pour ce garçon qui vole sans relâche au-dessus de l'océan depuis plus de 24 heures maintenant. Un rêve en effet, car ces petits points noirs au loin dans le ciel, sur sa gauche, ce sont des mouettes, oui des mouettes, autant dire que la Terre est en vue. D'ailleurs, d'autres points se distinguent, au-dessous, blancs, sur le bleu des flots. Ce sont des bateaux de pêche, annonciateurs de cette Irlande dont les côtes ne vont plus tarder à se dessiner. À l'intense bonheur de revoir des terres, Charles ajoute la satisfaction de constater qu'en dépit de la nuit, du vent, du sommeil, il n'a dévié que de 5 km par rapport à la route qu'il s'était fixée. Et tout ça à vue de nez. Sur la côte irlandaise, dans les champs qu'il survole maintenant, Lindbergh distingue nettement des gens qui courent dans sa direction et qui agitent des fanions. Le pilote ne comprend pas ce que veulent lui signifier ces braves gens. Comment pourrait-il imaginer que depuis quelques heures, la planète entière vibre au rythme de son exploit? En effet, 1927, c'est l'époque du triomphe de la radio, de cette radio qui transmet les informations instantanément entre les continents. Et c'est tout l'Occident maintenant qui a les yeux rivés sur le Spirit of Saint-Louis, sur ce petit zinc qui, tranquille, modeste, s'apprête à faire basculer les limites du possible. Pour le moment, le héros du jour se concentre sur sa navigation. Il fait corps avec cet appareil dont il connaît chaque bouton. Mon Spirit of Saint-Louis est un avion merveilleux, confiera-t-il. On dirait une créature vivante, glissant agréablement, heureusement, comme si le succès lui importait autant qu'à moi, comme si nous jouissions tous les deux de l'expérience, comme si nous pensions de même sur la beauté, la vie et la mort, dépendant chacun de la fidélité du dévouement de l'autre. Ce vol au-dessus de l'océan, c'est nous qui l'avons fait, et non pas moi ou lui. » En entendant ces mots, on réalise que ce qui pousse les grands aventuriers, c'est l'amour avec un grand A, pas l'amour de quelqu'un ou de quelque chose, l'amour en soi. Charles Lindbergh survole maintenant les côtes de France, mais oui, la Normandie, le Vexin, la nuit qui vient de retomber rend d'autant plus belle l'approche de cette ville lumière dont il a rêvé depuis l'enfance. Paris est là, à portée d'aile. La tour Eiffel est si belle quand on la voit en vrai qu'il s'offre le luxe d'en faire le tour complet. Puis Lindbergh met tranquillement le cap au nord-est, direction le Bourget, pour la fin de l'épopée. Oh, il a plus froid, il n'a plus sommeil, il voudrait même que ça dure encore. Tout en bas, les voitures qui roulent à touche-touche dessinent un serpent de lumière en direction du terrain d'aviation. Charles Lindbergh ne veut pas encore se l'avouer, mais au fond de lui, il a compris. Il a compris que les nouvelles sont allées vite, plus vite encore que lui, et que toute cette foule n'accourt que pour l'accueillir. Le défi a été relevé. Ce 21 mai 1927, et il a été relevé avec un grand succès. À peine posé sur la terre bien ferme, l'aviateur américain va connaître sans doute un des plus extraordinaires triomphes jamais réservés à un être humain. 100 000 personnes ont pu atteindre le Bourget quand il s'y pose à 22h22, ce 21 mai 1927, une foule en folie qui s'arrache son casque, son écharpe et jusqu'à des morceaux de cet avion immédiatement entré dans la légende. L'ambassadeur des États-Unis l'a récupéré, il le conduit avenue d'Iéna pour une conférence de presse. « Depuis combien de temps n'avez-vous pas dormi ?» demande un journaliste. « 63 heures, » répond Lindbergh, et tout à coup, comme s'il venait de réaliser, il titube et tombe de sommeil. Pour une génération entière, le mécano de Saint-Louis est devenu le symbole de la foi dans le progrès technique et le génie humain. Grâce à Charles Lindbergh, ce n'est pas le rêve qui est devenu réalité, c'est la réalité qui est entrée dans le rêve.